continuer ce soir. J'ai déjà corrigé une ou deux erreurs que j'ai faites la dernière fois. Je dis là-dessus, ça, bien sûr. Du musée de la grande fresque de Pompéi dont on a parlé, des mystères, a été faite, on ne sait pas exactement, mais en gros entre 70 et 60 avant Jésus-Christ. Et en 62 après, c'est là que j'ai fait une erreur, après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre à Pompéi, qui a fait peur à un certain nombre de personnes, mais c'est seulement en 79 après Jésus-Christ qu'a eu lieu l'éruption du Vésuve, qui a donc recouvert la totalité de Pompéi et donc la maison, la villa des mystères. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est dans l'histoire de Rome, on se situe dans ce qu'on appelle la République de Rome et non pas l'Empire. L'Empire commence plus tard, par rapport à la fresque, hein, l'Empire commence en 27 avant Jésus-Christ. Voilà, ça, ce que je voulais repréciser là tout de suite. Alors, on est toujours dans la même direction, qui est assez insolite, étrange. Aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. C'est assez étrange. Pourquoi ? Parce que ce que j'essaie de faire avec vous, c'est quelque chose qui ne relève pas d'un discours universitaire. C'est-à-dire d'une description, c'est-à-dire de l'histoire. C'est-à-dire que je pars de ce qui se passe dans le transfert, à savoir que quand on parle, évidemment, on parle de l'histoire, on parle des souvenirs, on parle de toutes sortes de choses concernant la famille, mais pas qu'on sait quoi ? C'est ça la question. Est-ce que c'est un souvenir dernier ? Ça, c'est ce qu'on espère. Mais en fait, c'est pas ça qui sera trouvé. Ce qui sera trouvé, c'est autre chose. Mais néanmoins, il faut bien effectivement, comme je l'ai montré là, si on regarde une fresque, celle dont je vous parlais la dernière fois, il faut bien écrire tout ce qu'on peut raconter sur ceci, sur cela, sur le fait que vraisemblablement, c'est ce que je disais, la femme. C'est des hypothèses, mais c'est des hypothèses quand même vraisemblables, hein, des suppositions. La femme qu'on voit, hein, sur la fresque, à l'entrée de la pièce, c'est effectivement elle qui a dû commander à des artistes la réalisation de la fresque. Et ce que diront habituellement les guides, mais aussi bien les livres, c'est des commentaires sur le fait que là, ce qui est signifié, j'insiste, mais signifié, c'est-à-dire ce qui est dit, ce qui est raconté, c'est quelque chose qui concerne cette femme, à savoir le fait qu'elle a été initiée au mystère de Dionysos. On ne peut pas dire que c'est faux. Est-ce que c'est vrai ? Voilà la question. C'est vrai dans le sens où on raconte quelque chose, on dit quelque chose. Mais un psychanalyste, et ce qui est attendu d'une psychanalyse, pour celui qui l'a fait, c'est pas tellement... C'est progressivement qu'il va s'en rendre compte, évidemment, c'est que il puisse toucher l'existence d'un lieu du langage. parce que on est habité par le langage. C'est pour ça que c'est important. On n'est pas habité par l'histoire, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Néanmoins, c'est pas faux non plus. Mais à condition de savoir, justement, transmettre, on pourrait dire interpréter. Et vous voyez que d'emblée, dès qu'on met ce mot interprétation, ça pose la question de toute œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? Et de toutes les interprétations possibles. Par exemple, au théâtre ou à l'opéra, du metteur en scène, qu'est-ce que c'est, quelle fonction il joue? Quelle fonction on... Et là, si je vous dis quelle fonction, je suis dans une description. Je suis dans un discours universitaire. Voire un discours de maître, de maîtrise. Donc on peut tout à fait comme ça avancer, voilà, et puis on fait le tour de la pièce, comme ce qui se passe habituellement quand des êtres parlants, on va les appeler comme ça, hein, ils visitent un musée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas tellement qu'ils sont parlants, c'est qu'ils sont parlés. Vous voyez, ça change tout. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas de trouver quelque chose, c'est de quel lieu peut nous venir quelque chose. Alors là, ça change radicalement tout, parce qu'on ne conduit plus rien à ce moment-là. Et l'énigme, c'est celle du passage de ce discours commun habituel, alors sur tout ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire le bien, le mal, les biens, ce qui convient, ce qui apparemment ordonne la société, toutes les institutions, tout ce qui est institué, et celui qui parle bien de ça, par exemple, c'est Sade. Mais Sade pose la question d'une souffrance au-delà de la mort. Le christianisme aussi, il appelle ça les enfers. Donc, vous voyez que, d'emblée, j'ai introduit quelque chose qui est la question de la mort. Mais, si on veut articuler quelque chose de la mort par rapport au langage, on n'est plus dans l'imaginarisation de la mort, qu'on ne peut d'ailleurs pas imaginer, puisque c'est absolument impossible à imaginer. On peut la figurer quand même. On en a une qui nous a été, une figure qui nous a été comme ça transmise, si on est du côté du christianisme et du catholicisme. C'est l'image du Christ en croix. Et au-delà, il y a la mort, et puis quand il est mort, au-delà de la mort, il y a la souffrance, vous pourriez dire, qui peut être temporaire, c'est ce qu'on nous a attribué, ou qui peut être éternelle. C'est par exemple ce qui doit arriver à Don Juan, Don Juren, le Don Juren de Mozart. Alors je vous parle de ça parce que je vous ai déjà dit que en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui, à un moment, m'a touché, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis allé toucher quelque chose. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas quoi, à un moment, dans ce final extraordinaire que crée Mozart, dans la musique de Mozart, mais aussi dans les interprètes qui chantaient dans les voix, dans la voix, et plus particulièrement, c'est quelque chose qui est venu se canaliser dans le cri de Don Juan. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais néanmoins, je pourrais dire que, et ce sera aujourd'hui notre point de départ, de même que ce qui est important dans la Villa des Mystères, eh bien, c'est quand même étonnant de le retrouver sur Télévision de Lacan. Ça pose la question, ça s'appelle La femme terrifiée. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est que peut-être, terrifié, c'est peut-être un grand mot, mais ce serait plutôt la femme arrêtée par quelque chose. Toute la question, elle est là. si on regarde un petit peu, simplement pour vous montrer là, ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, la femme terrifiée, là, telle qu'elle apparaît, si on regarde, on se rend compte de quoi ? Qu'elle a, c'est très compliqué sa posture, c'est une posture un peu conflictuelle. Je ne veux pas trop rester là-dessus, hein, mais enfin, son corps est tourné d'un côté, de l'autre, ses bras, c'est pas coordonné. Donc il se passe quelque chose d'important, que c'est pas harmonique, d'une part. Et la deuxième chose importante, c'est le fait qu'on a l'impression qu'elle est en direction de quelque chose, comme si elle découvrait quelque chose. Or, ce qu'elle découvre, en fait, c'est Dionysos et sa mère, Sémélé, qui sont, d'après certaines interprétations, je pense les plus valables, qui sont à l'Olympe. Sémélé, c'est une terrienne. Elle ne peut en aucun cas accéder au lieu des dieux. Dionysos n'est pas un Olympien, il ne fait pas partie des 12 Olympiens. Mais on peut penser que, comme il est partout, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas l'Olympe ? D'autant plus que sur la photo sur la fresque, on voit bien qu'effectivement c'est mêlé. C'est pas très bon comme ce qui nous en reste. Hein. Je vous rappelle que c'est en 1908, 10, 11, 12 qu'on a évacué tout ce qui recouvrait la fresque, et donc que depuis 79, au moment où elle a été recouverte, jusqu'en 1910, on ne savait absolument rien de l'existence de cette fresque. Et donc, progressivement, c'est pour ça qu'elle est plus ou moins bien conservée, et donc à côté de Dionysos, il y a donc sa mère. Alors on pourrait d'emblée partir, oh là là, la mère, le fils, etc. Non, c'est l'histoire. C'est les histoires, toujours les mêmes qu'on nous raconte. C'est plus compliqué que ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que la femme terrifiée, on va l'appeler comme ça, puisqu'elle s'appelle comme ça, c'est-à-dire ce que j'appellerais une femme, soudainement, mais pas en prenant la figure même d'une femme, en prenant beaucoup plus ça comme une femme qui est à la fois présente et absente, ce qu'on appelle insignifiant, qu'est-ce qui fait que, habituellement c'est une grande énigme, parce qu'on n'y comprend rien, hein, dans les explications habituelles, il y a ce truc-là, il y a ce machin qui est là, hein, il parle un peu mieux que moi, mais ça vient dire ça, je préfère dire ce truc, il y a un os. Et tous les interprètes ont essayé de le ronger, cet os. Hein, c'est comme le coup des trompettes autour du mur de Jéricho, hein, problème, hein, pour que le mur s'effondre. Hein. Ben, le mur de Jéricho, justement, il n'est peut-être pas là où on le voit, là où on le pense, là où on pense qu'il est. Bien, c'est quelque chose du même ordre, là. Ce que nous transmet Lacan, cette télévision de Lacan, ce qu'il appelle cette télé, hein, s'il met ça là-dessus, il ne s'est jamais expliqué, évidemment. Il n'a jamais dit pourquoi, hein, là-dessus. Sauf qu'il dit qu'à un moment, dans cette conférence qu'il fait pour la télévision, bien sûr, où, évidemment, personne ne comprend rien, bien sûr, parce que quand on lit Lacan, c'est vrai qu'on ne peut pas le critiquer puisqu'on ne comprend pas. Quand on lit Freud, on comprend, donc on critique. C'est comme ça qu'on est fichu. Ça s'appelle le discours commun, le bon sens, le sens. Dès qu'on comprend, on critique, ou on apprécie, on est dans le bien, le mal, le juste, l'injuste. Il y a autre chose que ça. Et une psychanalyse vise, parce qu'on vient en analyse, parce qu'on fait des symptômes, hein, c'est ça le problème, hein, parce qu'on a des symptômes, physique ou on va dire la pensée qui n'arrête pas de fonctionner, donc qui n'arrête pas de nous embêter beaucoup, de nous angoisser. Donc c'est pas psychique, enfin, c'est mieux de dire la pensée, je pense, que de dire psychique, hein, somatopsychique, c'est encore un dualisme. Donc, il y a d'un côté le corps qui peut avoir des symptômes différents, hein. Mais évidemment, ça se traduit au niveau du corps anatomique. Mais c'est pas ce corps-là qui est considéré. Le corps qui est considéré, c'est pas le corps anatomique. Même s'il faut le soigner au niveau du corps anatomique quand même. Puis comment les choses sont déjà un peu décentrées par rapport à l'optique médicale ou psychologique habituelle. Ah, qu'est-ce que c'est que le corps? Eh bien, le corps, c'est ce qui est habité par le signifiant, par le langage. Alors voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas le saisir comme tel. Hein? Alors on peut dire qu'il y a le corps du symbolique, le corps de l'imaginaire, le corps du réel, bon, bien sûr, mais tout ça, c'est tout du... C'est un peu tout du bégaiement, quoi. On répète, hein? On répète des trucs, quoi. Alors, on a besoin d'y passer aussi par là, pendant tout un temps. On dit que le bégaiement des maîtres. Les maîtres, ils bégayent, ils sont toujours pareils. Ah oui, c'est obligé. Et on est tous un peu là-dedans, hein, plus ou moins. Bon. Donc, la question qui se pose, c'est ça, pour ça que j'ai appelé ça trouvaille, je pense, c'est qu'est-ce qu'il est possible de, on va dire, traduire, mais pas au sens habituel, de transmettre, c'est ça, de transfert, quelque chose qui a à voir avec du transcendant, mais pas au sens religieux. Hein, transcendant, c'est ce qui traverse, qui passe. Qu'est-ce qui est transcendant? Et alors là, c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire parce que c'est la seule chose qui peut nous convenir. Et c'est la seule chose vis-à-vis de quoi on résiste. Voilà comment on est foutu. On est foutu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un lieu, qu'on ne peut toucher que, on va dire, de façon synchronique, c'est-à-dire comme ça, en un instant. C'est pas la diachronie qui se déroule, ça c'est l'histoire. Hein. Et ça c'est quelque chose, si on arrive à le toucher, au moment où sonne pour nous l'heure du désir, eh bien quelque chose n'est plus comme avant. Ça pose la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si on dit non quand sonne l'heure du désir? Est-ce que c'est sûr? Parce qu'évidemment la pensée va nous dire ça. Est-ce que c'est sûr qu'on en sort indemne? C'est pas sûr. C'est-à-dire, l'heure du désir, c'est-à-dire quand le réel, quelque chose d'insaisissable, vient sonner à notre porte, en quelque sorte. C'est pas sûr. Et c'est autour de ça que Lacan, notamment dans le séminaire d'éthique, c'est-à-dire en 59-60, quand il est dans une période difficile, parce qu'il est mis en examen par l'international, la société internationale, il sait qu'il y en a qui veulent l'exclure, lui retirer même toute possibilité d'exercer la psychanalyse. On veut bien qu'il fasse des séminaires, il cause toujours, hein, cause, mais pas de pratique. C'est-à-dire qu'il a en face de lui des maîtres, on va dire des créons, pour parler Antigone, hein, sur des gens bienveillants, hein, enfin oui, les bienveillants... Il y en a plein, hein. Ils ne sont pas malveillants, c'est les mêmes d'ailleurs, hein. C'est bien dire les malveillants. Fassent un petit effort pour passer de l'un à l'autre, c'est tout, hein. Mais c'est pareil, au nom de la logique, au nom d'une séance, ça doit durer 45 minutes, quoi. Au nom du fait qu'on interprète le refoulé, au nom du fait que, je ne sais plus bien ce qu'il a dit, tout ce qu'on voudra. C'est exactement ce que Créon reproche à Antigone. Hein. Pourquoi tu n'acceptes pas de m'obéir? C'est ça que ça veut dire. Eh bien, à ce moment-là, d'accord, qu'il doit être tordu, travaillé par cette affaire-là. Hein? On peut le penser. Eh bien, il articule, il me semble plus particulièrement à ce moment-là, ce que Freud a appelé, alors, l'instinct de mort, c'est-à-dire la pulsion de mort. Et quand les gens, quand habituellement on parle de la pulsion de mort, on y va, alors là, c'est parti, hein, c'est pire que ça, hein, destruction, etc. Patati. Ah non, c'est pas ça. C'est pas détruire quelqu'un. Pas ça. Ça, c'est trop simple. Ça, c'est ce que vous voyez sur un tableau, vous dites, bah, ça veut dire ça, quoi. Non, non, c'est simple, hein. La pulsion de mort, c'est autre chose. C'est comment ça se noue avec la pulsion de vie, on pourrait dire. Voilà le problème. Autrement dit, quand vient sonner pour nous l'heure du désir, voilà le problème. Eh bien, sonne en même temps la pulsion de mort. Pas du tout pour nous détruire. Pas du tout. Parce que la pulsion de mort, telle que Lacan la transmet à partir de Freud, Freud, bien sûr, c'est bien qu'il parle de là, hein, c'est déjà énorme. Hein. Il a pensé ça, il l'a écrit. Mais est-ce que c'est ça son message, hein? Eh bien, la pulsion de mort, c'est pas ça. Alors, on va dire, la pulsion de mort, c'est ce qui se passe quand on parle. Pendant tout un temps, c'est user les significations. C'est-à-dire que le savoir que l'on sait, alors on va sortir une formule, que l'on sait comment ? Que l'on sait, pour autant que pour nous, il n'y a pas de savoir qui n'est pas un sachant. Dieu, la politique, l'écologie, la psychologie, tout ce qu'on a, il y en a un qui sait. Eh bien, ce savoir-là, ce savoir-là, il est présent, toujours présent. Il n'y a pas à dire qu'il ne doit pas exister. En plus, la société, elle fait autour de ça. Donc, on ne va pas faire autrement. Hein. Mais le problème, c'est que dès qu'on décrit les choses, on n'en sort plus. Autrement dit, la pulsion de mort, parce qu'il y a le moment, alors là, attention, ça cavale vite, c'est normal, hein. Dès que ce mot-là sort, il y a une dramatisation extraordinaire, hein, qui fait qu'effectivement, on pense que c'est lié à la mort, pas du tout. C'est que le savoir déjà su, du sachant, là, qu'on est tous, du petit moi là, royal là, hein, qui contrôle le monde, hein, qui sait ce qu'il fait, et bien ce savoir là, justement, à un moment, progressivement, il va conduire à ce passage du sens dans lequel il est, la signification, au non-sens. Non-sens. Nonsense, en anglais. Et toute la question est justement celle du message du non-sens. C'est pas du tout à la mode, hein, ce que je raconte, évidemment. Tant c'est des sondages, c'est des trucs, c'est des machins. On l'a entendu hier, oui, donc j'ai vu ça. On va faire des prises de sang chez les adolescents pour savoir s'ils sont dépressifs, parce qu'il y aurait effectivement un marqueur de non-sens qui va monter. Voilà où ça va. Vous savez qu'on est vraiment des animaux, hein. Pour ça que Lacan a raison de dire. L'être humain, je ne sais pas ce que c'est, il ne me dit pas comme ça, mais je le dirais, il y a les animaux, puis les animaux parlent. La médecine est basée sur l'animalité. Tous les travaux de la médecine, ça vient de là. Le corps tel qu'il fonctionne, c'est comme le corps de l'animal. On se base sur les résultats biochimiques. Il n'y a rien à demander d'autre. Hein. Donc je ne dis pas du mal de la science. Je dis seulement qu'il y a autre chose. Voilà. Mais il ne faut pas demander à la science de penser autrement. Parce qu'elle ne peut pas penser autrement. Donc, j'en arrive à cette question de la pulsion de mort. Et ce que je transmets, c'est que ce n'est pas du coup du fait de peur. Hein. Ce n'est pas le drame. Hein. Bon. Ce n'est pas évident chez Freud. Mais il y a cette dimension-là, et pour un peu comprendre, je pense que je m'arrêterai là-dessus, parce que ça fera déjà pas mal de choses, pour un petit peu comprendre, et dès que je parle, évidemment, je rentre dans le sens, hein, pour un peu arriver à prendre, en deux mots, il faut que j'accepte d'être pris. Alors là, la pédagogie ne va pas. C'est pas ça, la pédagogie. Hein. C'est qu'il faut apprendre en un seul mot. Bon. Puis on a intérêt, hein, parce qu'il faut quand même bien avoir des diplômes pour avoir une profession. Hein. On a intérêt. Le problème, c'est que c'est pas... Il y a autre chose que ça. Hein. Bon. Et donc, la question importante, c'est qu'est-ce que c'est que ce moment où on est pris? On est mis à prix. Où il faut y mettre quelque chose de sa peau. Voilà. Le problème, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là? Parce que ce moment-là, évidemment, il ne peut pas être décrit dans un livre de bonne qualité. Voilà. Et puis ça ne va pas faire recette du tout, ça ne va pas se vendre. J'écoutais encore un midi que par hasard, un truc. Ben, dès que quelqu'un fait quelque chose, ce qui compte, c'est le hit parade, de savoir s'il va avoir 50 000 exemplaires vendus. C'est ça qui est important. Voilà, on en est. Là, on en arrive avec la technique. C'est pas la valeur. Ce que j'essaie de m'approcher avec vous, là, c'est la question de quoi, de ce que Marx. Marx, il a passé sa vie, une vie d'enfer, c'est le cas de le dire, à se coltiner le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Qu'est-ce que c'est que le capital? Et il a transmis notamment une chose qui peut nous servir, c'est comme ça que Lacan le lit, la dimension de la plus-value. À condition qu'on n'articule pas la plus-value au capital, parce que c'est comme ça qu'on en parle à Lyon, hein, la bourse et compagnie, hein, c'est qu'on articule la plus-value au producteur du travail. Donc ce qui compte, c'est la plus-value en regard du langage articulé au producteur, à celui qui parle. Qu'est-ce que c'est que cette plus-value? Et il l'a appelé le plus de jouir, le plus de jouir. Autrement dit, il y a un lieu, et c'est ça l'intérêt de la pulsion de mort, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire ce passage, un passage dont on ne peut parler évidemment qu'à partir de quoi? Qu'à partir du langage. Parce qu'il n'est pas question de la mort. Hein? Il y a un lieu d'où il est possible, d'où il est espéré, vous voyez, c'est pas jeu, il n'y a pas de jeu dans ce que je dis, hein? C'est tout des troisièmes personnes. Hein? C'est-à-dire, on ne sait pas bien ce qui est en jeu. Donc, il est espéré. Eh bien, qu'on acquiert eh bien, quelque chose qui est le manque d'objet. Voilà, pour dire les choses au niveau référence théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que cette femme terrifiée découvre, au-delà de ce qu'elle voit, par le biais de Dionysos, pour un peu arriver à comprendre ce que ça pouvait être dans... Bien sûr, ce que je dis, c'est des hypothèses, évidemment. Comment appeler ça? Dans les références langagières des Grecs, là on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais ça renvoie le culte de Dionysos, il a commencé 10, 15, 20 siècles avant. Hein. Ça a commencé bien avant. Parce que c'est Dionysos qui est vu. Hein. Ça a été transmis comme ça, de façon orale. Donc, ça nous pose la question de qu'est-ce que c'est que le culte de Dionysos, dont je vous rappelle, c'est comme ça que c'est formulé, ce qui nous reste, hein, seules les femmes pouvaient entendre l'appel de Dionysos. C'est-à-dire que c'est du côté du féminin. Quand je dis les femmes, c'est évidemment pas les femmes au sens où il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. C'est cette sensibilité particulière, singulière, qui nous arrache au discours comme ça d'obéissance. Je vais pas trop partir là-dessus parce que je voudrais un petit peu dire quelque chose de ce sur quoi je vais un peu conclure. Si la dimension de l'histoire, elle nous envahit pas trop, pas complètement, parce que habituellement elle nous envahit complètement. Et alors je vais vous en raconter une autre, hein, que vous connaissez bien. C'est celle que je vais évoquer tout à l'heure, c'est celle qui régit les rapports d'Antigone et de Créon. Telle que c'est dit, c'est raconté, c'est lu, c'est lisible, c'est compréhensible dans l'Antigone de Sophocle, 441 avant Jésus-Christ. Pour moi, constitue là, hein, parce que c'est juste avant qu'il y a eu la naissance de la tragédie grecque. Eh bien, ce qui est en jeu à ce moment-là, entre Créon et Antigone, ce qui est dit, parce que ça, c'est ce qui est dit, pourquoi c'est dit comme ça? Parce que c'est ce qui est pensable, c'est ce qui est articulable, c'est le fait que, eh bien, Antigone se révolte contre l'édit qu'a promulgué Créon, à savoir qu'il est interdit de donner une sépulture à son frère Polynice. Bon, je ne reprends pas les raisons. Bon. Et donc, elle passerait son temps et elle dirait non, elle n'obéirait pas à Créon. Parce qu'elle n'obéit pas à Créon, eh bien, elle sera à son tour emmurée, vivante, dans une tombe. Voilà, bien fait pour elle. C'est pareil pour Don Juan, hein. C'est exactement pareil. Puisque, et je vous rappelle que je fais la liaison, hein, Don Juan mourra, bien sûr, sera mis à mort, mais surtout, il souffrira éternellement. Éternellement dans l'enfer, puisque c'est un dissolu. Il n'accepte aucune loi. Il n'obéit à aucune loi. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est pas tellement que Don Juan, apparemment, était titillé par ce qu'on va appeler les femmes, en l'occurrence, hein. Et puis Antigone, on ne parle pas de ça, c'est pas tellement ça la différence. C'est que Don Juan, le mythe de Don Juan, a lieu après le Concile de Trente, 16e siècle, et en 1630, c'est la première pièce qui est faite par un moine de Séville, dans le seul but, parce que ça s'adresse aux chrétiens, aux croyants, ça s'adresse pas aux autres, hein, les autres on n'en veut pas, hein, c'est ça, comme ça que c'est défini à ce moment-là, hein. Vous voyez le discours du maître, voilà, très simple. Hein. Vous serez sauvés si vous n'attendez pas au dernier moment pour vous repentir. Et on va mettre en scène quelque chose où justement, au dernier moment, c'est ça que Don Juan présente, il est impossible de se repentir. Voilà, c'est ça qui est défini. Donc c'est des pièces de théâtre, puis après il y a des opéras, il y a des ballets, enfin, il y a toutes sortes de choses. En 441 avant Jésus-Christ, quel est le message, on pourrait dire, quel est le message de non-sens? De même qu'on peut dire quelque chose du message de non-sens de Mozart, c'est pas évident du tout chez Molière. Hein. Mais, parce que vous savez que Molière a fait donc Don Juan, hein, pas très longtemps après Tirso Molina, là, pas très longtemps après la première pièce là, sur Don Juan, mais quel est le message de non-sens de Sophocle? Quel est le message de non-sens que peut toucher du doigt quelqu'un qui pousse à son terme une psychanalyse? C'est la même chose. Quel est le message de non-sens que Lacan, en difficulté avec l'international, arrive à trouver dans la position d'Antigone? Il est dans la position d'Antigone. Il ne se révolte pas, bien sûr que il doit souffrir, Lacan, et puis il va en vouloir à l'international. Ça, c'est, on trouve ça, mais ce n'est pas ça l'important. Même si ça n'est pas faux. Le message, c'est que Antigone, parce que c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'Antigone n'arrête pas de dire que pour elle, il n'est pas question, elle ne se révolte pas du tout devant Créon. C'est Créon qui veut la faire obéir. Pour elle, il n'est pas question non pas tellement d'accepter la loi de Créon. Il n'est pas question que son frère soit traité comme veut le traiter Créon. C'est-à-dire, Créon, c'est l'oncle de Polynice. Pourquoi ? Alors, c'est ça l'énigme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison logique. Ce qui apparaît dans le texte, c'est évidemment un mot grec, hein. Alors, c'est outadelphos. Et le delphos, là, ça a comme origine delphus, qui veut dire l'utérus, la matrice. Pourquoi ? Parce que, alors normalement c'est un delphos, mais autos ça veut dire le même, hein. Parce que c'est mon frère. On a complètement perdu ça, nous, avec le christianisme. On ne sait pas ce que ça veut dire, un frère, une sœur. Hein. Donc on a aimez-vous les uns les autres. Autre chose, hein. C'est bien plus simple. Hein. Bon, donc la question là, tu peux le prendre là.
C'est fait.
La question c'est qu'est-ce qui fait qu'en s'accrochant à un signifiant, premièrement, elle aille jusqu'au bout, voilà ce que c'est que le bout, on le croit, et deuxièmement, surtout que quand on le lit habituellement, tous les commentateurs universitaire, il ne repère pas ça. Il faut Lacan pour repérer ça. Voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est ça qui se passe dans une analyse. C'est qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et on tourne autour de quelques signifiants. C'est tout. C'est tout. Et un signifiant, c'est pas quelque chose qui a du sens. Là, il y en a. C'est défini en tant que. Il y a Delphos. Au moins Delphus, au moins qu'en fait, il vient de la même matrice, du même utérus. Et pourquoi ? Avant de disparaître, pas avant de disparaître. Au début de la pièce, elle va expliquer que jamais plus c'est possible. Il y a un impossible là-dedans. Il est absolument impossible si on ne lui donne pas des soins funéraires, et si on ne le vénère pas véritablement, si on ne le reconnaît pas comme quoi, ben comme un corps parlant, comme un animal parlant, et non pas seulement comme un animal, comme de la charogne. Il est absolument impossible pour elle à nouveau d'avoir un frère. Pourquoi ? Parce que son père et sa mère sont morts. À la rigueur, si c'était son mari, elle pourrait en prendre un autre mari. Si c'était... il y a des choses qui sont possibles. Mais le frère ou la sœur, quand le père et la mère sont morts, il y a une loi qui est dans le langage, qui est pour elle que... Ça touche à un impossible. Et c'est pour ça, dit-elle, que mon frère, c'est pas de la charogne. C'est un corps parlant. C'est ça la question du signifiant. Il est présent et absent autour de cet autadelphos, qui est 20 fois dans la grande repère, à 20 reprises, ce mot-là est dans le trajet. C'est donc ça qu'il a fait, non pas accepter, aller en direction. Pros, agas. Bon, je vais écrire parce que je me suis un peu. Je suis parti dans les caractères. Alors, pros, en direction de agas. Alpha, tau, alpha, sigma. Elle est pros agas, en direction de la terre, du fatum. Alors, on a traduit par malheur. Bien sûr, c'est comme ça que ça se traduit, effectivement, habituellement. Mais c'est peut-être pas tellement, hein, là, quand on fait une translittération. C'est peut-être pas si atroce que ça. Peut-être pas si atroce. Chacun a son athée particulière. On voit bien dans une psychanalyse, moi. Ça revient. Il faut bien se foutre le nez là-dedans, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Mais qu'est-ce que c'est finalement que la terre ? Parce que c'est ça, est-ce que c'est uniquement le destin terrible qui doit nous arriver parce que le papa, la maman, le monde, la tante, le grand-père, tout ça. C'est autre chose que ça.
Et moi-même, ce qui la guide, c'est d'être.
Alors ça, c'est pros, c'est en direction ectos. Atlas. Ectos, Atlas.
Ectos, c'était au-delà.
Ectos, au-delà du destin.
Il s'agit d'aller au-delà du destin. Il ne s'agit pas de gommer le destin. Il s'agit d'arriver à s'arranger avec son destin, c'est-à-dire la terre familiale. Hein. Ah oui, parce qu'on n'est pas dans les choux. Hein. Tous. Hein. De telle façon qu'on arrive à cette position ectos. Alors si, avec quelques mots là, pris en termes de signifiant, prosatas, ectosatas, autadelphos, delphus, vous avez à peu près les signifiants. Les signifiants qui soutiennent la position d'Antigone. Créon n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Créon, c'est le tonton qui dirige la ville, c'est le Sarkozy ou le Hollande du moment, ou le Obama, tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de diriger à peu près bien, qu'on répartisse à peu près les choses correctement. C'est important, ça, quand même. Hein. Ben, c'est pas vital, au sens où on en parle. Hein. Et il se débrouille pas trop mal, Créon, parce qu'il dit, ben voilà, il y a des lois, puis c'est tout. Et puis le frère qui a assiégé la ville, et puis qui a tué son propre frère Éthiope, ben il n'a pas le droit d'avoir les mêmes honneurs funéraires que celui qui a valorisé la ville. C'est logique, ça. Hein? On n'arrête pas d'entendre ça. Hein? Bon. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ce discours-là. Parce que quand on rentre dans un discours comme ça, on ne peut plus en sortir. On est pris dedans, on est ficelé, on n'a plus rien à dire. On n'a plus qu'à appliquer la méthode. Bon. Alors, je vais m'arrêter sur ceci, parce qu'il faut bien en laisser pour la prochaine fois. C'est le 11 mai. Hein, je l'ai marqué là-bas, c'est dans 3 semaines. Hein. Et en juin, je pensais que, sur un congrès international au Brésil, je pensais que, mais en fait, c'est comme c'est fin juin, le séminaire aura lieu. Personne ne peut la suivre. Pourquoi ? Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a quelque chose qui la met dans cette direction-là. Elle peut en souffrir. Et c'est là que vous voyez le génie de Lacan par rapport à la lecture de Freud. C'est la pulsion de mort qui la dirige. C'est pas parce qu'elle va mourir. C'est pas parce qu'elle va mourir. Hein? C'est parce qu'il y a quelque chose d'un type de savoir qui le dirige, qui est lié à la chaîne signifiante, qui dépasse tous les savoirs que l'on pourrait savoir. Voilà. Il existe un savoir, je ne sais pas que je sais. Et que je ne sais pas que je sais, c'est pas un savoir qu'un sachant sait déjà. Hein? Ça, c'est clair pour ça. Alors, on va s'arrêter là-dessus. On la prochaine fois, parce qu'on a encore du grain à moudre, hein. On n'a pas fini là. L'énigme, j'insiste, le message de Sophocle, 441 avant Jésus-Christ, on n'a pas beaucoup avancé, on a plutôt reculé depuis. Hein. C'est le fait que un être parlant peut, c'est une possibilité, peut, s'il accepte d'être mis en mouvement par les dirigeants, vous voyez, je fais un beau lapsus, les signifiants, oui, c'est pas si clair que ça, hein. Les signifiants qui le dirigent peuvent aller pros atas, pour autant que ce qui est important, c'est d'arriver ectos. C'est ça le moment où on est mordu par quelque chose. Et si on touche à ce moment-là, qui est un moment lié aux signifiants, alors tout ce qu'il y a eu avant n'est plus comme avant. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.